dans cette salle-ci, il y a trois blocs de pièces. Le premier qu'on voit au sol s'appelle Mer d'encre. C'est une installation faite de chapeaux melon, des anciens, plutôt vintage, et dans lequel j'ai mis de la résine et de l'encre. Donc si j'avais pu mettre que de l'encre, je n'aurais mis que de l'encre, mais c'était difficile d'avoir autant de contenant sans que l'encre reste telle quelle. Donc j'ai triché un petit peu pour cette pièce-là. Et ce qui m'intéressait dans ce que j'avais déjà travaillé des chapeaux, ce qui m'intéressait c'était des chapeaux avec de l'encre dedans, mais de manière individuelle, là cet ensemble-là, c'est que la figure de... Pour moi, ça joue un peu avec la figure du poète, c'est-à-dire celui qui a un peu des mots plein sa tête ou de l'encre plein sa tête quelque part. Et en même temps, ça joue aussi sur le caractère un peu tragicomique de la situation, c'est que s'il y avait vraiment de l'encre et que la personne récupérait son chapeau, il se retrouverait plein d'encre sur la tête, quoi. Donc là, je l'ai installé de cette manière-là, un peu comme si plusieurs poètes, comme ça, avaient soit jeté leur chapeau, soit c'était, la mer qui les a ramenés vers nous, un peu comme des restes, comme ça, d'un naufrage quelconque. Donc dans la plupart du temps, en fait, même si même si je raconte de manière, j'ai plein d'anecdotes, plein de petites histoires sur la façon dont j'ai fait les pièces ou les liens un peu que j'y fais, souvent j'essaye de laisser le maximum de liberté pour la lecture des pièces. Donc on peut un peu y voir ce qu'on veut au fait dans cette installation. Quand je parle de la figure du poète, c'est parce que c'est ce que j'y projette moi, mais en même temps on peut y voir beaucoup d'autres choses. Et les chapeaux melons étaient intéressants parce que c'est aussi ça donnait pour moi un aspect un peu plus surréaliste à l'installation, donc ça rappelle d'autres pans de l'histoire. Et les deux pièces dont on peut parler aussi, qui sont les miroirs, qui sont là et là, en forme de soleil. Donc ce sont des miroirs que j'ai chinés, qui s'appellent des miroirs Chati-Valoris, qui sont, on va dire, propres à une certaine époque, en termes de déco. Donc moi, il m'intéressait parce que c'était des miroirs et qu'en même temps, ils avaient ce double jeu comme ça à représenter une forme un peu de soleil. Et j'ai choisi de les recouvrir d'un drap ou d'un mouchoir. Donc il y en a plusieurs. Là, j'ai choisi d'en montrer que deux pour cet espace-là. C'est en même temps comme un soleil avec un nuage qui passerait quelque part. C'est un peu un truc météo. Et de l'autre côté, il y a la tradition de recouvrir les miroirs, c'est quand il y a un deuil dans une maison, dans un foyer. Donc on recouvre les miroirs d'un drap ou d'une nappe ou quelque chose comme ça. Donc là, ça joue un peu avec cette interprétation-là aussi de l'installation. Donc il y a quelques jeux de reflets, mais c'est pas... Le troisième ensemble de pièces, c'est une pièce qui s'appelle Morgenlied, qui est donc au mur, ici. Ce sont un système de cimaises très, classique, très académique. Ça se fait depuis longtemps. Je crois que c'est un des modèles un peu historiques de la maison Boyer à Paris, qui est la maison assez spécialiste qui fabrique ces cimaises-là. Je les ai vues dans plusieurs endroits, celle-là précisément, dans des restaurants, dans des lieux comme ça un peu vieux et désuets. Et j'ai toujours beaucoup aimé ces systèmes d'accroche, parce qu'ils ne sont pas du tout, c'est toujours un peu enquiquinant quand on a ça chez soi, qu'on doit accrocher quelque chose, c'est pas hyper esthétique non plus, mais en même temps, on le retrouve beaucoup. Et c'est pas non plus aussi discret que ceux avec les fils en nylon, etc. J'aimais bien ce caractère un peu, on va dire, très... Enfin, ces lignes sont plus accentuées. Le fait que ce soit du métal et de cette manière-là, avec les accroches en laiton, ça donne une matérialité qui est pour moi plus intéressante. Donc j'ai choisi de ne pas montrer d'œuvre accrochée dessus, mais de laisser l'objet tel quel et de le dessiner un peu comme ça, à la manière un peu d'une partition de notes ou d'une chanson. Le titre d'ailleurs s'appelle Morgenlied, qui veut dire la chanson du matin. C'est parti d'un poème de Goethe qui s'appelle La chanson du matin de l'artiste. J'étais tombée sur ce poème quand j'étais en train de préparer, en début d'année passée, une exposition à la Kunsthalle de Bâle. La Kunsthalle de Bâle a une architecture, enfin c'était à l'étage, elle a une architecture assez particulière parce que, comme beaucoup de lieux comme ça ensuite, mais ce bâtiment-là était directement conçu pour les artistes, c'est-à-dire l'architecte au départ savait que c'était un lieu pour les artistes. Et donc il a fait un système de plafond comme ça de verre qui permet d'avoir une lumière zénitale, la lumière du jour comme ça zénitale, qui est une très très belle lumière. Quand j'ai été invitée à cette exposition-là, j'ai choisi en même temps de travailler avec un deuxième artiste qui travaille essentiellement des installations lumineuses, et en même temps moi, de l'autre côté, d'obscurcir complètement le toit, ce plafond zénithal sur tout l'étage, de l'obscurcir complètement avec de l'encre. Donc un peu à la manière des tondeaux, donc c'est un peu comme si j'avais mis des tondeaux sous le toit, enfin sous le plafond, et donc ça avait tout alourdi le plafond, et il y avait ça qui était présenté sur la deuxième partie de l'exposition. Je me suis intéressée à ce poème de Goethe parce que l'architecte lui-même, quand il a conçu ses plans pour ce bâtiment, s'est inspiré de ce poème pour expliquer que les artistes avaient besoin de la lumière directe du jour. Et ce poème qui parle des muses dans les cieux qui inspirent directement les artistes en bas. Et donc il s'était servi comme ça de l'idée de la muse et des cieux pour inspirer les artistes, pour se servir de Morgenlied pour justifier son architecture.